Bonjour Jérôme Gadjou.
Bonjour.
Benoît Hamon va faire cette semaine de nouvelles propositions dans le domaine de la moralisation de la vie politique. On va évoquer quelques-unes des mesures qu'il devrait annoncer, mais d'abord sur l'intention. Est-ce que c'est une opération destinée à se présenter lui comme un candidat propre, irréprochable, avec la volonté de souligner le contraste avec certains autres éventuellement ?
C'est d'abord la volonté de répondre à l'ambiance détestable de cette campagne électorale. Pour vous parler franchement, on n'avait pas forcément prévu de faire de cette question de la transparence et de la moralisation de la vie publique le sujet central de l'élection présidentielle. Mais puisque ce sujet nous a littéralement envahi et, comment dire, a phagocyté la campagne électorale, il fallait y répondre. C'est pas la première fois. Régis Juanico, qui est le trésorier de la campagne de Benoît Hamon, a présenté à la mi-février ou au tout début du mois de février, une douzaine de premières propositions sur la transparence, notamment sur le financement des campagnes électorales pour qu'on sache qui sont les donateurs, pour la lutte contre les lobbies, au nom d'un principe qui était de dire, puisqu'on va devoir, une fois qu'on a gagné l'élection présidentielle, prendre à bras-le-corps des problématiques dures, interdire les pesticides, le diesel ou les perturbateurs endocriniens, ça va pas se faire sur un claquement de doigts. Il y a des lobbies puissants en face. Il faut donc être complètement étanche et complètement clean face à eux. Alors, donc, la campagne électorale a accentué ces problématiques avec les affaires de François Fillon. Et donc, dans un travail avec Éric de Montgolfier, l'ancien procureur, Benoît Hamon a souhaité aller plus loin sur un certain nombre de propositions.
Et faire des propositions donc dans la semaine. Alors, il va notamment proposer la suppression pure et simple de l'immunité parlementaire qui, selon lui, devient, je le cite, un moyen d'empêcher la justice d'enquêter et de fonctionner normalement. L'immunité, puisque vous parliez des lobbies, elle est censée protéger justement les parlementaires dans le cadre de leurs activités contre d'éventuelles pressions, d'éventuelles intimidations venant de pouvoirs politiques ou de pouvoirs privés et de garantir l'indépendance des parlementaires. Est-ce que finalement le remède ne risque pas d'être pire que le mal ?
Mais c'est nourri de l'expérience. En fait, on inverse la charge de la preuve. Si le parlementaire a le sentiment que la procédure judiciaire qui est engagée contre lui est destinée précisément à l'empêcher de faire son boulot de parlementaire en toute indépendance, alors il a toujours la possibilité à ce moment-là de saisir, alors on a évoqué soit le Conseil d'État, soit une autorité judiciaire pour dire attention, dans ce cas-là, c'est quelque chose de dilatoire. Mais la pratique permet de constater qu'en sens inverse, l'existence de l'immunité, le temps qu'il faut pour la lever, puisqu'il faut un avis.
C'est une surprotection.
C'est une protection atypique qui avait ses justifications, mais que les justiciables ne comprennent plus. Je vais vous prendre qu'un seul exemple. En vous quittant tout à l'heure, je vais rejoindre le conseil départemental de l'Essonne où je siège. Et parmi les conseillers départementaux, il y a Serge Dassault. Pardon de vous dire, mais le temps qu'il a fallu pour lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault a pas permis à la justice de passer rapidement. Il a été condamné il y a quelques semaines à des peines extrêmement lourdes d'ailleurs, à de la prison, et il a été dispensé de peine du fait de son âge et à une amende très très forte. Moi je constate qu'entre le moment où l'affaire est lancée et le moment où elle est jugée, il s'est passé un temps anormal. D'ailleurs, il continue à siéger, ce qui est aussi une autre anomalie, mais là plus morale, on va dire.
Alors, autre mesure proposée par Benoît Hamon, quelque sorte un passage au crible des ministres pressentis. C'est un peu sur le modèle américain, avec audition, avec quitus fiscal.
Il y a un double enjeu, le quitus fiscal, et puis moi je vais vous dire, il y a une chose qui ne me déplaît pas non plus, c'est aussi la vérification des compétences et le fait que on remette au centre du jeu les parlementaires. Le gouvernement, d'une certaine manière, il doit procéder du Parlement, c'est pas un ruissellement par le haut, et que donc les commissions compétentes des assemblées puissent auditionner, un, pour vérifier qu'il n'y a pas de cadavre dans le placard, si j'ose dire, qui nous pète à la figure une fois que la personne a été nommée ministre, donc le quitus fiscal, la situation fiscale, la situation financière,
et la
bien
compétence,
évidemment.
Vous disiez, c'est-à-dire on ne nomme pas n'importe qui pour faire n'importe quoi.
Je trouve que c'est pas totalement incongru d'avoir un premier échange sur les orientations et ce qu'envisage de faire la personne pour voir, voilà, si elle est au niveau. C'est pas un examen de passage, mais ça permet quand même, puisque ces auditions sont publiques, de voir un peu ce que les uns et les autres ont dans le ventre.
Est-ce que vous pensez que cette question de la probité des candidats va être déterminante lors du vote,
vous rendez compte
l'isoloir pour les Français? Est-ce que vous pensez que ça va conditionner leur vote?
De fait, elle l'est. Quand vous avez deux candidats, l'une qui refuse de répondre à une convocation de la justice.
Au nom de son immunité.
Oui, mais justement. Et chaque justiciable fait la comparaison. Quand vous êtes pris, vous avez brûlé le feu rouge, vous vous dites pas, je passerai plus tard. Et un autre qui est mis en examen et qui vous dit « et alors ?» et qui considère que juste en disant « j'ai rendu les costumes, je regrette », là c'est pareil, quand vous brûlez le feu rouge, vous dites pas au policier « tiens, je vais faire une marche arrière » et on oublie l'histoire. Donc rien que pour ça, Je pense qu'il y aura au moins un sursaut civique, un sursaut citoyen, et au-delà, la question du rapport et de la pollution de l'argent dans la vie politique, je pense que ça doit être présent, et vous avez commencé en évoquant l'authenticité, la probité, oui. Le tempérament de Benoît Hamon. À un moment, oui, il faut faire la différence en se posant la question de savoir qui est le plus à même d'incarner ce nécessaire sursaut.
Benoît Hamon a dit à propos du ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron qu'il s'en, je le cite, qu'il s'en foutait. Mais il a également dit qu'il ne s'attendait pas à autant de trahison. Et hier soir, il a parlé de couteaux qu'on lui planterait dans le dos. Et d'ailleurs, on va y revenir, d'une possible mise à mort avec le ralliement de Manuel Valls, peut-être dans les prochains jours. La vérité, c'est qu'il s'en fout ou qu'il est blessé, Benoît Hamon ?
Je veux faire une confidence. J'étais avec lui quand il a dit « je m'en fous ». On était dans l'Eure-et-Loire et c'était un déplacement autour des propositions de Benoît Hamon en matière de handicap. Et je peux vous assurer, c'était un sursaut humain. Il voulait parler de ses propositions en matière de handicap. Elles sont super importantes. C'est 12 millions de Français. Et les journalistes qui étaient présents, c'est normal, c'est leur job. Ils ne lui parlaient que des ralliements ou du cabinet noir de François Fillon. Et donc, c'était une sorte de cri du cœur en disant « mais moi, j'ai envie de pouvoir parler de mes propositions projet contre projet ». Alors, pour répondre à votre question, dans le même temps, il y a quelque chose qui nous insupporte, qui insupporte Benoît Hamon, c'est que quand on est attaché à la démocratie, on s'assied pas sur une règle du jeu qu'on a acceptée, qui est le principe de la primaire. La primaire, personne n'obligeait Manuel Valls ou les autres à participer à la primaire, à être candidat ou même à voter à la primaire. Mais dès l'instant où on accepte, c'est pas si je gagne, c'est formidable, et si je perds, je fais ce que je veux. Parce que si on fait ça, alors on crédibilise cette idée selon laquelle les politiques n'ont pas de parole. Voilà. Et donc, c'est ça qui déclenche cet agacement et cet énervement. Après, ça ne nous empêche pas de creuser le sillon, de continuer et de constater que, fort heureusement, il y en a certains qui, même s'ils n'étaient pas à l'origine forcément d'accord avec Benoît Hamon, font sincèrement la campagne de Benoît Hamon au nom d'un principe qui est une loyauté à la règle de la primaire et puis à l'histoire de la gauche. Et puis, cette idée qu'il faut écrire une nouvelle page, parce que le vrai problème, il est là, je vais vous dire. Et c'est le message principal que je veux faire passer. Si il y a des gens qui renâclent aujourd'hui à faire la campagne de Benoît Hamon, c'est parce que de toute façon, ils ne veulent pas admettre qu'on tourne une page à gauche, qu'une nouvelle page de la gauche est en train de s'écrire, et qu'ils préfèrent rester au chaud de pratiques et d'un système, ou en tous les cas d'un mode de fonctionnement qui leur va bien.
Sur Manuel Valls, puisque Benoît Hamon l'a évoqué hier en disant on parle d'une possible mise à mort cette semaine, vous avez des informations précises? C'est vraiment dans les tuyaux?
Lui
qui a lâché la bambinette.
Le drame de tout ça, c'est le feuilleton qui est organisé. Je préfère une Ségolène Royal qui dit moi je participerai pas à ce jeu de feuilleton, parce que il empêche justement de parler du fond de la campagne électorale. Mais on voit bien que il y a cette idée de larver, de perler, de prolonger, je dirais, cette espèce de supplice. Et je suis convaincu que le peuple de gauche, les électeurs, ceux qui sont attachés justement à pas confondre leur gauche avec leur droite, parce que c'est quand même ça qu'on nous propose, de nous dire, c'est la même chose, la droite et la gauche. Vous pouvez faire campagne avec Xavier Tiberi, peut-être demain Dominique de Villepin, Jean Arthuis ou toute une série d'anciens ministres chiraciens. C'est pas ça la gauche. Autour de propositions sur lesquels, qui sont respectables, mais sur lesquels on a des désaccords. Moi, j'estime que c'est pas de gauche de proposer une baisse de l'impôt de solidarité sur la fortune de 2 milliards au bénéfice de 3 400 contribuables. Donc rien que cette question, elle devrait titiller tous ceux qui ont le cœur à gauche.
Merci Jérôme Guedj.
Merci.
Bonne journée.